Trou noir, matière noire, énergie noire. Je suis très attiré, voire séduit, par ces concepts, car ils sont mystérieux et, à bien des égards, ils définissent les limites de nos connaissances. Priya, vous avez eu une carrière remarquable. Vous êtes maintenant professeur d'astronomie et de physique à Yale. Vous avez remporté de nombreux prix. Vos travaux sont récompensés et le Time vous a récemment classé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde. Et, en ce qui vous concerne, compte tenu des idées que vous avez avancées, de votre influence, laquelle pensez-vous avoir été la plus significative?
Je pense donc, évidemment, que l'on se sent souvent plus attaché à certaines idées qu'à d'autres. Les scientifiques sont censés être totalement agnostiques, n'est-ce pas? Ils sont censés être objectifs et non émotionnellement attachés à leurs idées. Mais, vous savez, nous sommes humains, donc on y est attaché. Et je pense que pour moi, c'est cette idée récemment validée, il devrait y avoir plusieurs façons de créer les premiers trous noirs. Et cette proposition d'un effondrement direct du gaz dans l'univers primordial, formant des trous noirs dès le départ, contournant en quelque sorte l'idée de l'étoile traditionnelle. Car la compréhension originelle, depuis l'époque de Chandrachakar, était qu'une étoile massive, peut-être l'une des premières étoiles de l'univers, terminait sa vie, puis explosait et laissait derrière elle un trou noir. Ce sont donc ces trous noirs germes, dont sont issus tous les trous noirs que nous observons au centre de la plupart des galaxies, y compris la nôtre, dont la masse est d'un million à un milliard de fois supérieure à celle du Soleil. Ce sont donc des mastodontes, et tout provient de ces minuscules germes. Et cette vision alternative, bien sûr, a été inspirée par de nouvelles données. Il s'agissait donc de trous noirs d'une masse milliardaire, alimentant ces sortes de quasars cosmiques très brillants, des phares cosmiques découverts de plus en plus loin dans le temps. Il y a eu un manque de temps pour les faire germer à partir de petites graines. Cela m'a poussé à réfléchir à des solutions alternatives. Cette idée, cette notion qu'il devrait y avoir plus de solutions, est née d'une intuition, d'une volonté de ne pas se sentir limité. La nature ne doit pas être aussi restrictive. Il devrait y avoir plus de solutions, car de plus en plus de trous noirs apparaissaient partout. Ils étaient là, tout simplement. C'est l'idée qui m'enthousiasme le plus, en partie à cause de son cheminement. Tout a commencé avec une série d'articles que j'ai rédigés avec un collaborateur, J.C. Plodato, en 2005, et ça n'a pas été facile à mettre en œuvre. L'idée n'a pas été retenue. Et elle était assez radicale, car elle était simple en elle-même, mais montrer qu'il existe des endroits dans l'univers où les conditions nécessaires à un effondrement direct existent réellement, et qu'elles pourraient exister. Ensuite, des simulations sophistiquées permettant de vérifier ces endroits nous en diraient plus sur leurs propriétés probables dans notre univers. Cela a pris beaucoup de temps. Il a donc fallu de la persévérance et de la patience, ainsi qu'une certaine conviction. Difficile de ne pas s'y accrocher, car cela n'a pas été rapide et les gens se disaient « Oh, c'est une belle réponse, la physique est correcte. Ça marche, mais on ne sait pas si c'est vrai. » C'est donc devenu un défi passionnant.
Pensez-vous que les observations de l'univers nous permettent toujours de choisir la bonne théorie? Pensez-vous qu'ils définissent un résultat unique ou nous retrouvons-nous avec des explications alternatives et devons-nous en quelque sorte choisir entre les meilleures?
Je pense que, dans ce cas, non pas parce qu'il s'agissait d'un ensemble de signatures assez univoques, mais en général, oui. Il y a donc toujours un degré d'ambiguïté, et il faut rester ouvert aux possibilités. Je pense que c'est l'une des caractéristiques clés de la science qui peut sembler un peu problématique pour le profane qui ne comprend pas à quel point le processus scientifique est confus. Mais pour moi, c'est l'une des motivations d'être scientifique. Le fait que toute connaissance soit provisoire, qu'elle soit en quelque sorte la meilleure à ce jour et qu'elle soit susceptible d'évoluer. Pas toujours de manière transformatrice, fondamentalement transformatrice, mais il faut rester ouvert d'esprit. Et comme vous le dites, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Et rien n'est jamais définitivement acquis.
Et donc l'une des choses pour lesquelles vous êtes connu est la cartographie de la matière noire et de l'énergie noire. Pensez-vous que nous savons que la matière noire et l'énergie noire existent? Êtes-vous sûr que c'est le cas?
Oui, je pense, comme je l'ai dit, provisoirement, compte tenu de toutes les preuves dont nous disposons, je crois en l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. J'utilise le mot « croyance » très prudemment et intentionnellement. Oui, je pense que les preuves accablantes soutiennent l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. Et je dis cela parce que je pense que la façon dont ces entités se manifestent dans l'univers est très claire. Donc, en ce sens, elles sont absolument réelles. Elles se manifestent et elles sont nécessaires à notre conception actuelle de l'univers. Et il reste à déterminer si la nature particulière que nous attribuons à ces objets, à ces entités, est vraiment ce dont il s'agit. Par exemple, je pense que la matière noire est bien de la matière, telle que nous la comprenons, même si c'est quelque chose d'exotique, qui ne fait pas partie du tableau périodique que nous connaissons, ni de ce dont nous sommes faits. Mais je crois que c'est une particule. Cela dit, cette particule est restée incroyablement insaisissable. Nous ne l'avons pas encore trouvée. Le Soleil ne l'a pas encore trouvée. Des expériences de détection directe ont été réalisées pour cela. Elles ne l'ont pas trouvée. L'énergie noire, une fois de plus, est tout aussi intrigante. Nous savons comment elle se manifeste. Nous savons qu'elle alimente probablement l'expansion accélérée de notre univers. Nous avions un modèle fictif, et nous savions que ce modèle fictif pouvait être affiné. Et récemment, un léger indice a émergé, laissant penser que nous pensons que l'énergie noire est constante. Et nous voyons un léger indice potentiel qui nous inciterait à être plus ouverts à l'idée que l'énergie noire pourrait évoluer avec le temps cosmique dans l'univers. Et vous savez, encore une fois, vous connaissez les trous noirs, la matière noire, l'énergie noire. Je suis très attiré, voire séduit, par ces concepts, car ils sont mystérieux et, à bien des égards, ils définissent les limites de nos connaissances scientifiques actuelles. C'est donc particulièrement passionnant de travailler sur ces entités obscures. L'univers invisible est incroyablement fascinant. Bien sûr, nous disposons d'indices visibles provenant des étoiles, de la lumière que nous recevons à travers les longueurs d'onde de l'univers. Mais étrangement, l'univers visible semble éclairer l'univers invisible. Je ne suis pas physicien, je suis philosophe. Je considérerais nos théories comme des métaphores ou des modèles que nous appliquons au monde plutôt que comme la découverte d'un cadre ultime. Seriez-vous à l'aise avec cela? Ou pensez-vous qu'elles sont plus qu'un modèle, qu'elles saisissent réellement la nature intrinsèque de la réalité? Oui, je pense, il existe des modèles à différents niveaux de sophistication pour différents phénomènes. Je dirais qu'il existe des concepts et des contextes physiques particuliers où ces modèles sont plus proches de la réalité que dans d'autres cas. Ainsi, par exemple, le modèle que nous avons, le modèle quadridimensionnel de l'espace-temps lui-même, et les phénomènes qui en découlent, comme la courbure de la lumière, par exemple, je pense que cela va au-delà d'un modèle conceptuel. Je veux dire, je ne pense pas, comme le diraient les sociologues des sciences, que les atomes existent. Je ne pense pas que les atomes soient simplement une bonne représentation de ce dont cette table pourrait être composée. Donc, je pense qu'il y a une différence. Il y a des endroits où nous utilisons des métaphores, et souvent ces métaphores, saint astérisque car astérisque car, représentent en quelque sorte une compréhension incomplète. Et je pense que lorsque notre compréhension évolue et devient plus sophistiquée, les modèles qui en résultent, affinés et perfectionnés, nous rapprochent vraiment de la réalité. Je ne parlerai cependant pas de vérité avec un grand V.
Oui.
Parce que vous êtes philosophe, je sais que vous m'avez entraîné là-dedans, et je ne vais pas m'y attarder.
Oui. Et dans le cas de l'atome, bien sûr, la notion originale d'atome était qu'il était identique d'un bout à l'autre et indivisible, visible. C'était une particule ponctuelle, une idée ponctuelle à l'origine. Maintenant, d'une certaine manière, l'atome s'est évaporé, n'est-ce pas? On se retrouve avec les particules sous-jacentes au départ, les protons, les neutrons, puis les quarks, etc. Et ce que nous entendions par atome au départ n'est plus très clair. C'est impossible. Donc, d'une certaine manière, nous pensons tous qu'il existe des atomes, d'une autre, c'est assez difficile de comprendre ce qu'ils sont vraiment, donc je
pense que c'est exactement ce que je voulais dire quand j'ai dit que nous affinions et peaufinions un concept.
Et dans ce cas particulier, peut-être linguistiquement, l'atome, ce n'est pas quand j'ai parlé d'atome, je ne parlais pas des atomes de Démocrue ou de l'ANU des philosophes indiens. Je parle vraiment de l'atome de Beau et de notre compréhension évoluée. Vous avez tout à fait raison, nous avons parfois ces marqueurs conceptuels qui, linguistiquement, suggèrent qu'il s'agit de métaphores, mais ils représentent désormais bien plus que cela. Vous comprenez? Alors,
que diriez-vous? Il y a, au festival, des physiciens qui veulent proposer des alternatives à l'énergie noire. Je pense que l'une de leurs raisons est probablement que la proposition de l'énergie noire est très ambitieuse, dans le sens où elle représente 69% de l'univers. Nous venons donc d'inventer une grande partie de l'univers avec de l'énergie noire. Ils proposent donc des explications alternatives, en quelque sorte, possibles, selon lesquelles la gravité fonctionnerait différemment de ce que nous imaginons, ou quelque chose comme ça. Et quelle serait, en général, votre réponse à ces histoires alternatives?
Je pense que c'est légitime pour l'instant avec l'énergie noire, car, comme je l'ai mentionné, nous avons actuellement un modèle provisoire. Et vous savez, nous en sommes encore à un stade avancé. La découverte date de 1998, nous en sommes donc encore aux prémices de la compréhension de la phénoménologie riche et complète de l'énergie noire et de ses manifestations. Nous savons qu'il y a eu une manifestation claire, notamment grâce à la détection de l'accélération de l'expansion grâce aux données des supernovées, mais je pense que pour l'énergie noire, la chasse est ouverte à ce stade. Quel que soit le modèle proposé, il doit évidemment décrire ce que nous avons observé et compris jusqu'à présent, et pour être pris au sérieux, il doit faire une prédiction testable. Je pense donc que tant qu'une explication alternative répond à ces critères, je suis tout à fait partant. Il en va de même pour la matière noire. Il y a eu des propositions intéressantes, mais pour l'instant, je n'ai rien vu qui englobe réellement l'ensemble des données d'observation que nous observons. Par exemple, il existe un modèle tenseur vectoriel scalaire, dérivé des scénarios de modification de la gravité et de la dynamique newtonienne. Ils sont très intéressants car ils ont un énorme pouvoir explicatif au niveau des galaxies individuelles et des courbes de rotation. Il montre qu'il semble y avoir beaucoup de matière qui fournit un support invisible, soulevant les halos des galaxies. Je pense que cette alternative explique cela incroyablement bien. Mais d'un autre côté, ce modèle ne parvient pas à expliquer la courbure de la lumière que nous observons partout, notamment avec le télescope spatial Hubble. Il révèle ainsi dans toute leur splendeur les prédictions de la relativité générale et de tous les autres domaines que nous avons testés, et que vous avez utilisés pour illustrer ces cartes de ce que pourrait être la matière noire. C'est très impressionnant, car
cela permet d'imaginer ce qui pourrait exister.
Oui, merci. et je pense que c'est parce que nous avons une compréhension très fine de la distribution spatiale de la matière noire. Donc, non seulement c'est de la matière, mais si c'était vraiment de la matière, nous avons une très bonne idée de sa distribution. Et cela correspond incroyablement bien à une pléthore de données d'observation. Donc, même si je suis totalement ouvert d'esprit, je ne pense pas que nous ayons d'alternative crédible pour le moment. Et ce qui est remarquable, c'est que notre compréhension standard actuelle de la formation des structures induites par la matière noire est tout simplement incroyable. C'est un succès phénoménal, et les succès ont été accumulés au cours des 30 dernières années à différentes échelles, des plus grandes aux plus petites, et je pense qu'il existe des tensions à petite échelle. Des tensions émergent, et nous travaillons actuellement sur une tension qui semble assez intrigante, car elle nécessite une explication qui va à l'encontre de toutes les autres tensions. Et donc, je pense que cela reste à voir. Ça a l'air plutôt sûr, mais vous savez, en tant que scientifique, comme je l'ai mentionné plus tôt, il faut être très ouvert d'esprit et s'efforcer de voir plus clair et plus loin dans l'univers. Je pense que cela offre des tests plus rigoureux pour les modèles que nous construisons.
Comme vous le dites, c'est extrêmement excitant de participer à la création de notre future vision de ce que nous pourrions comprendre de l'univers. C'est vraiment fascinant. Priya, ce fut un grand plaisir de discuter avec vous.